l'Allemagne occidentale vient de vivre une terrible semaine d'émeutes. Quelque chose de grave s'est produit, brusquement, comme l'éveil d'un volcan depuis longtemps éteint. Tout le drame s'est joué, et continuera peut-être de se jouer en quelque sorte, entre deux hommes. Le premier s'appelle Axel Springer. Il a 54 ans, le cheveu grisonnant, les traits légèrement empâtés, des costumes de très bonne coupe et une grande ambition, devenir, ou plutôt rester, le maître absolu de la presse en Allemagne fédérale. Il contrôle le tiers des journaux quotidiens d'Allemagne de l'Ouest, 90% des journaux du dimanche, 17% des magazines et les trois quarts de la presse de Berlin. Son domaine s'étend bien au-delà, à l'édition, au papier, aux agences de tourisme et même aux produits pharmaceutiques. Monsieur Springer s'emploie à modeler des citoyens disciplinés, satisfaits de leur sort, pleins d'admiration pour la société industrielle, vigoureusement anticommuniste. Ce qui le dépeint le mieux, avec ses ambitions, son goût du pouvoir, sa vision un peu simpliste et schématique du monde, sa candeur aussi, c'est le majestueux building de 18 étages qui s'élève à Berlin-Ouest, près du mur qui sépare l'Occident de l'univers communiste. L'autre Allemand, l'adversaire d'Axel Springer, a 27 ans. Il étudie la sociologie à l'université de Berlin. Présentement, il lutte contre la mort sur un lit d'hôpital. Un néo-nazi lui a tiré, il y a quelques jours, une balle dans la tête. Rudi Dutschke était inconnu, jusqu'au moment récent où il sema parmi les étudiants allemands les graines arrachées à tous les doctrinaires de la Révolution, de Rosa Luxembourg à Mao Tse-tung, en passant par Bakounine. Provocation, manifestation, violence, voilà les mots d'ordre de Rudi Dutschke, de Rudi le Rouge, qu'on observe de Moscou et de Pékin avec un intérêt mêlé d'inquiétude. Où cet orateur passionné, aux dents de loup, à la sombre chevelure, emmène-t-il la jeunesse allemande, ces quelques milliers d'étudiants déchaînés qui posent au gouvernement de Bonn son premier grave problème depuis la fin de la dernière guerre. Il les emmène à l'assaut de l'empire d'Axel Springer, un empire gardé par la police comme un bastion de l'ordre établi. Sans doute, les étudiants allemands veulent-ils frapper l'homme qui les fustige, les ridiculise, les accable dans ses journaux? Mais ce n'est là qu'une apparence. Axel Springer et Rudi Dutschke, ce sont deux Allemagnes, bien plus, deux mondes qui s'affrontent. L'éditeur représente l'ordre avec tout ce qu'il comporte de solidité et d'injustice, de bien-être et de cynisme. Il est, si vous voulez, l'image vivante de ce miracle allemand dont on parle depuis des années, et qui glorifie le succès. L'Allemagne produit, exporte, construit, investit, s'enrichit, progresse, installe ses citoyens dans un cadre de vie chaque jour plus confortable, plus douillet. On mange plus, on s'habille mieux, on s'offre davantage de loisirs, on se loge plus agréablement, on a deux grands partis politiques associés au pouvoir qui gouvernent tranquillement, calmement, sans à-coups. Le peuple allemand, dans sa grande majorité, ouvriers compris, ne s'en plaint pas. Il trouve que la voiture, le réfrigérateur, la télévision, un logement décent, des vacances joyeuses sont les éléments d'un bonheur, matériel certes, mais non méprisable. L'étudiant, c'est le chercheur passionné d'une aventure politique, intellectuelle, morale, dans un désert idéologique. Le romantisme allemand, le fameux romantisme allemand, ne s'exprime plus dans les poèmes émouvants, dans une musique fiévreuse ou mélancolique, mais dans la brutalité, les cris d'incendie. Rudi Dutschke ne se bat pas vraiment pour une organisation moderne d'un enseignement désuet ou contre les rotatives des journaux du Trust Springer. Il se bat contre les petites joies somnolentes du peuple allemand, contre les conquêtes de la froide technique, contre un parlement sans passion qui ressemble à ce ventre législatif que sa caricature avait illustré d'aumier. La presse Springer, c'est la société tout entière, unifié dans son calme tiède. Le mouvement étudiant, c'est la révolte de l'esprit minoritaire, la manifestation de l'inquiétude, la recherche du combat, la quête du Graal sur les autoroutes encombrées, à travers les supermarchés ou entre des rangées d'ordinateurs cliquetants. Que peuvent 10 000 étudiants contre toute une civilisation? Peu de choses si l'on ne considère que les résultats immédiats. Le bruit n'ébranlera sans doute ni la puissance industrielle, ni l'édifice politique, ni même le building berlinois de M. Axel Springer. Mais il peut empêcher notre monde de s'endormir tout à fait. L'ordre, quand il commence à peser, secrète le désordre. Quand les peuples heureux se lassent de n'avoir pas d'histoire, ils s'en créent. Deux mains posées sur un chapelet, un œil fermé, sous la longue mèche de cheveux qui barre encore le front. Le masque de la mort brutalement plaqué sur le visage mince, le nez conquérant, les dents de loup. Avec le sang des Kennedy, pour la seconde fois versé par un assassin, s'écoule la vie, les ambitions, la fortune, la gloire. Et déjà, tandis que le monde bouleversé médite sur le sort d'une famille emportée par les terribles enchaînements de cette tragédie antique, déjà, les stratèges électoraux des États-Unis reconsidèrent leur plan. Robert Kennedy, Bob, est entré dans la nuit. Le dernier du clan, Edward, Ted, s'apprête. Il y a quelques jours, le romancier Romain Gary était reçu par Bob en Californie. Il relate dans le Figaro son entretien. « Il faut compter avec la chance, lui disait le jeune candidat. Je sais qu'il y aura tôt ou tard un attentat. » Et Robert Kennedy ajoutait ceci, « Pas tellement pour des raisons politiques, par contagion, par émulation. Nous vivons une époque d'extraordinaire contagion psychique. Parce qu'un type tue Martin Luther King ici, un contaminé va immédiatement tenter de tuer un leader des étudiants allemands. » Poussant plus loin l'analyse, le sénateur de New York mettait en cause le vide spirituel si profond que l'événement dramatique, le « happening », est devenu un véritable besoin, je l'ai cité, et aussi la contagion démographique qui contraint les individus comprimés ou opprimés à se libérer par l'explosion. Robert Kennedy pose le problème de la violence, de cette violence dont la France, comme d'autres pays, vient de connaître certains déchaînements. Je me demande toutefois si l'on n'est pas en train de confondre deux phénomènes qui n'ont guère, à mon avis, de rapports entre eux. Cette confusion, pourtant, je comprends que Bob Kennedy l'ait faite, car il est citoyen d'un pays où la violence éclate partout, sur les champs de bataille du Vietnam, dans les ghettos noirs, dans les antres de la mafia. Le président Johnson a d'ailleurs annoncé hier soir qu'il allait constituer une commission d'enquête sur les causes de la violence. Il connaît au moins par avance une des réponses. Il existe aux États-Unis 100 millions d'armes à feu, soit une pour deux Américains. On peut se procurer là-bas, en vente libre, fusils, revolvers, mitraillettes ou même bazookas. Chacun est armé et nul ne peut l'en empêcher sous prétexte que la Déclaration des droits de 1791, détournée aujourd'hui de son sens originel, garantit à tout citoyen le droit de porter des armes pour défendre sa patrie et son foyer. En réalité, ce sont des intérêts commerciaux qui exercent une constante pression sur les parlementaires pour faire obstacle à la modification de cette législation. Mais il me paraît trop facile de mettre dans le même sac le blouson noir, l'étudiant qui dresse une barricade et l'assassin politique. Que l'Amérique détienne le triste record des meurtres et des tentatives de meurtre contre ses présidents et ses leaders politiques ne peut faire oublier que les drames de ce genre remplissent l'histoire. On s'entretuait sous les Mérovingiens comme dans l'Italie de la Renaissance. Le roi Henri III, le roi Henri IV sont morts sous le couteau de fanatiques comme le tsar Alexandre et l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche sous les balles de terroristes. Deux présidents de la République française ont été assassinés, Sadi Carnot et Paul Doumer. Et tout près de nous, à plusieurs reprises, le général de Gaulle a frôlé de peu la mort que lui réservait l'OAS. Childebert ignorait la télévision. Aucun Borgia n'avait eu entre les mains les bandes dessinées de Superman. Ravaillac ne connaissait pas Bonnie and Clyde. L'assassin politique, agissant par sordide intérêt ou bien par fanatisme politique ou religieux, n'appartient pas à notre univers, même si le climat de violence contribue à ébranler ses nerfs déjà malades. La caractéristique de la plupart de ces meurtriers est qu'ils servent une cause, bien qu'ils utilisent pour cela des moyens abominables. Que des hommes puissent applaudir à l'assassinat d'un de leurs semblables est atroce, absolument atroce dans le cas de Robert Kennedy. Mais le peuple russe considérait Alexandre comme un autocrate sans cœur. le peuple serbe frappait avec la main de principe à Sarajevo, l'occupant autrichien. Pour les Français libres d'Alger, il y a 25 ans, l'amiral Darlan représentait la collaboration avec l'Allemagne. L'OAS voulait frapper en De Gaulle l'homme qui avait abandonné l'Algérie. On en arrive insensiblement à se demander, selon sa tendance, s'il y a de bons et de mauvais assassinats politiques. Posez-vous la question au sujet d'Adolf Hitler, par exemple. Sa mort n'aurait-elle pas été une bénédiction pour l'humanité? C'est un cas limite, me direz-vous. Je n'en disconviens pas, mais tout problème moral aboutit finalement à un cas limite. Personnellement, je préfère penser qu'on ne peut transiger sur un principe comme celui du respect de la vie humaine, sous peine de glisser de proche en proche jusqu'aux plus redoutables excès. C'est une machine infernale dans laquelle il faut, à mon avis du moins, éviter de mettre le doigt. Tout le corps y passe bientôt. Quant à la violence dont parlait Bob Kennedy, dont parlait hier soir le président Johnson, elle n'est pas de même nature selon qu'elle exprime par tous les moyens la révolte d'une minorité brimée, c'est le cas des Noirs américains, ou celle d'une collectivité qui rêve de refaire une société, c'est le cas des étudiants français en révolte. Ces deux manifestations ont cependant un point commun, c'est le désir de remettre en cause un édifice politique, administratif, universitaire, culturel, et de réaliser un peu plus de justice. Cette violence-là, c'est celle qui parfois accouche d'une révolution et fait tomber la tête d'un roi, ce qui est aussi, en dépit du procès, un assassinat politique. Un vieux prélat, l'ancien archevêque de Bologne, le cardinal Giacomo Lercaro, a ouvert hier à Bogota, capitale de la Colombie, en Amérique latine, le 39e congrès eucharistique. Dans son homélie, le cardinal a parlé des égoïsmes sociaux qui vont jusqu'au génocide et aussi de l'injustice et de la haine qui se cachent sous les apparences de l'ordre établi. C'est ainsi que le légat du pape prépare l'arrivée, après-demain, de Paul VI à Bogota. On a déjà vu le souverain pontife voyager à travers le monde. Il est allé à Jérusalem, à Bombay, à New York, à Lisbonne. Mais cette visite que, pour la première fois dans l'histoire de la chrétienté, un pape rend à l'Amérique latine, cette visite revêt une exceptionnelle importance. Paul VI va trouver une église en pleine crise. Une crise qui risque de prendre un tour dramatique à l'occasion de la conférence qui doit réunir, après le congrès eucharistique, tous les évêques latino-américains. Cette crise, elle se traduit d'un côté par un fléchissement de la pratique religieuse et du recrutement sacerdotal, le problème du célibat des prêtres, pour ne pas parler de la contraception, se pose là-bas d'une manière aiguë. La seconde cause des convulsions qui secouent l'Église latino-américaine, c'est purement et simplement la pratique de la morale chrétienne et des préceptes évangéliques. Alors qu'une partie de l'épiscopat fait passer avant tout la défense de l'ordre public et la lutte contre le communisme, des prêtres ont adhéré à ce qu'on appelle la théologie de la violence. Ils se réclament à la fois de Che Guevara et de Camilo Torres, ce prêtre colombien qui passa au maquis et qui fut tué il y a 2 ans les armes à la main. Entre ces deux extrêmes, un certain nombre d'évêques, tout en condamnant la violence, en comprennent les raisons et luttent pour obtenir de profondes réformes. À la tête de ce groupe se trouve Mgr Helder Camara, archevêque de Recife, au Brésil, qui vit pauvrement au milieu des pauvres et que les autorités de son pays ont baptisé l'archevêque rouge. Car derrière cette crise de l'Église latino-américaine, ce que Paul VI va trouver, c'est le drame de tout un continent. Sans doute les dirigeants colombiens ont-ils pris quelques précautions. Sur le haut plateau de Bogota, où se tient le congrès eucharistique, les centaines de milliers de fidèles sont tenus à distance respectueuse par les policiers et les militaires. Hier déjà, on a distribué la communion à travers un grillage. On triera sur le volet les paysans que le souverain pontife doit rencontrer. Et surtout, le gouvernement colombien a fait procéder au ramassage des milliers de gamins qui errent par les rues de Bogota, à demi nus et affamés, et qui, paraît-il, s'intoxiquent à l'essence pour dormir et, s'ils le peuvent, pour rêver. le président Carlos Lieras Restrepo ne souhaite pas que le vicaire du Christ laisse venir à lui les petits-enfants. Cette Amérique latine vers laquelle va s'envoler le pape est une poudrière. Elle représente 15% des terres du globe, mais seulement 6% du revenu. En moyenne, chaque être humain dispose par mois de 12 000 anciens francs. Mais ce chiffre ne signifie rien. 2% de la population possède 75% des richesses. Si certaines expériences sociales, tentées par exemple au Chili ou au Mexique, ont donné quelques résultats heureux, la misère et l'analphabétisme sévissent. L'aide américaine ne suffit pas à atténuer le scandale des immenses fortunes, à rattraper le retard technique, à nourrir ceux qui sont affamés. On accuse les États-Unis, sous couvert de cette aide et grâce aux activités de ses services secrets, d'exploiter le continent et de le maintenir délibérément en esclavage. Sur un tel terrain, les germes révolutionnaires lèvent rapidement. D'autant plus que l'exemple de Cuba fait rêver la jeunesse d'Amérique latine. Au Brésil, en Uruguay, au Mexique, les étudiants sont en rébellion ouverte, se heurtent à la police. Des prêtres, des fidèles, ont occupé l'autre dimanche la cathédrale de Santiago du Chili pour exiger que l'Église se rapproche du peuple. Là-bas, les partis communistes jouent la légalité, réprouvent l'action des mecs. L'Amérique latine n'appartient-elle pas aux États-Unis, comme l'Europe de l'Est appartient à l'URSS? Mais les peuples n'ont pas été consultés sur le partage du monde. Pour les ouvriers des exploitations pétrolières du Venezuela, pour les mineurs de cuivre du Chili ou d'étain de la Bolivie, pour les paysans des pays andins, pour les caboclos du Brésil, pour tous ces misérables, ces réprouvés, ces désespérés qui meurent lentement, la violence n'est-elle pas en fin de compte la seule issue possible? Voilà la question qui est posée au pape par plus de 200 millions d'hommes et d'abord par une partie du clergé. Vous imaginez dans quel climat vont tomber les paroles du souverain pontife. À l'ONU, messieurs les diplomates avaient poliment applaudi ces appels à la paix, puis ils avaient continué, comme devant. À Bogota, c'est à des hommes malheureux, résignés ou révoltés, que s'adresse Paul VI. Cette dramatique question de la violence, elle n'est pas posée qu'au souverain pontife. Elle nous est lancée au visage, à nous, peuples occidentaux, peuples des pays prospères. Nous sommes entourés de millions d'hommes qui ont faim. La guerre du Biafra a déjà fait 1 million de victimes. En Inde, des enfants s'étendent sur le pavé pour mourir. En Amérique latine, des dizaines de millions d'êtres humains sombrent dans la misère et le désespoir. Croyez-vous vraiment que cette multitude se taira longtemps? Et si la morale chrétienne, puisque le congrès eucharistique de Bogota attend le pape, si la morale chrétienne prescrit « tu ne tueras point », cette injonction ne s'adresse pas seulement à ceux qui prennent les armes, elle concerne d'abord ceux qui assassinent leurs semblables avec la silencieuse complicité des heureux. À Paris, tandis que les députés entreprenaient d'examiner le projet de réforme universitaire, quelques milliers d'étudiants ont manifesté du côté de la Bourse et de la gare Saint-Lazare. La police a procédé à quelques 400 arrestations et le calme est revenu. Quelques heures plus tôt, à Mexico, c'était la tuerie. Une folle fusillade a éclaté entre Grenaderos, les CRS mexicains, et les étudiants. Bilan de cette boucherie, selon les correspondants de presse, une quarantaine de morts et des centaines de blessés. Mais que les âmes sensibles se rassurent, les Jeux Olympiques auront lieu. Mettre en parallèle les deux événements de Paris et de Mexico suffit à ramener à la raison ceux qui se laissent aller aux généralisations sommaires du genre de celle-ci. La révolte étudiante est un phénomène mondial, analogue partout, ou encore, quel que soit l'uniforme, un flic est un flic. En France, les étudiants révolutionnaires ont déclaré la guerre à la société de l'abondance qu'ils jugent écrasante pour l'homme. Au Mexique, ils protestent contre une injustice sociale qui se traduit par la concentration des richesses dans quelques bourses et par une misère qui accable 20 millions d'êtres humains. Là-bas, un paysan dispose d'un revenu qui lui permet tout juste de ne pas mourir, et voilà l'autre face d'un pays qui jouit d'un régime politique stable, d'une forte croissance économique et d'une bonne gestion financière. Que le Mexique soit presque un paradis, auprès de ces pays andins qui, comme la Bolivie, restent plongés dans la nuit opaque du sous-développement, justifie moins encore une politique fondée sur de si scandaleuses inégalités. Les étudiants répondent par la violence, cette violence qui est le véritable problème politique et moral de tout le continent latino-américain. Certes, il existe dans cette partie du monde, et spécialement au Mexique, une tradition révolutionnaire qui produit en série des émeutes et des putschs. Hier encore, au Pérou, s'est produit le dernier incident de ce genre. Le président Belaunde Terry a été déposé par l'armée. Mais il s'agit là, bien souvent, le plus souvent, de règlements de compte entre militaires. Ce continent dominé par l'armée et par l'Église, où les partis communistes, respectant les zones d'influence des grandes puissances, condamnent l'action révolutionnaire, où des millions d'hommes, réduits à l'état animal, n'ont ni la force ni le désir de se révolter, ce continent n'a pas encore connu le cataclysme que les plus froids sociologues considèrent comme inéluctable. Il est bien difficile de réprouver la violence quand celle-ci apparaît à beaucoup comme le seul moyen de se faire entendre. C'est en ces termes que se pose le problème en Amérique latine. Dans un film sorti il y a quelques années et dont le titre était « Raices », on voyait un enfant borgne perdre son second œil à la suite de l'explosion d'un pétard dans une fête. La mère de cet enfant remerciait Dieu. Son fils allait pouvoir gagner un peu d'argent, comme mendiant aveugle. Tout cela explique les émeutes du Mexique, celles du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay. Tout cela explique les maquis de Colombie et de Bolivie. En France, la crise de mai a conduit le gouvernement à présenter une réforme de l'université. Au Mexique, le président Gustavo Díaz Ordaz ordonne de tirer sur la foule. Peut-être les réactions des chefs d'État sont-elles à la mesure de leurs troubles de conscience.